Notre génération à nous est née sous une bonne augure, entre guillemets.
Après le printemps arabe, l'été sera algérien.
C'est l'augure de la démocratisation, etc. Et puis on a grandi dans le désespoir des années noires.
Amine, Sophia, Younes, Ouda, ils ont 20 ans et la révolution qu'ils attendent est déjà là, dans les corps, dans les vies et dans le dialogue avec leurs aînés.
Il faut que les choses changent, il faut que les jeunes aient leur place, il faut que les jeunes reprennent le pouvoir.
Alger, nouvelle génération, par Aurélie Charron et Caroline Gillet sur France Inter, tous les samedis à 19h15. France Inter.
La différence.
Il est 15h04, très bon après-midi à tous à l'écoute de France Inter. C'est l'heure de retrouver Daniel Mermet avec Là-bas si j'y suis.
Auditeur de passage qui laisse un message, petit mot passage, petit mot massage, du baume à l'âme. Un maillon à l'endroit, un maillon à l'envers, ça s'enchaîne, humaine. Et ça se déchaîne, avis de tempête à la radio, ou avis de fête, c'est la météo de là-bas, et on y est. Anne, Maine-et-Loire.
Je viens d'entendre sur France Inter le grand cocorico de la bourse. Tout va bien, la bourse se goinfre, parce que les plus pauvres, les plus fragiles en Grèce vont devoir payer les fautes des riches. Au revoir, merci.
Quand les candidats aux primaires socialistes nous annoncent que chacun devra faire des efforts, alors l'origine de la crise et le renoncement se résumeront à une réduction à minima des inégalités, tandis que 10% de la richesse nationale est passée des revenus du travail aux revenus du capital, et malgré l'explosion des écarts de rémunération à l'intérieur même des revenus du travail. Régis de Nîmes.
Christine Lagarde quitte le gouvernement. Le FMI l'apprend, qu'il la garde. Du coup, François Baroin quitte son fauteuil du budget pour s'emparer de celui de l'économie et des finances. Valérie Pécresse, jusqu'ici à l'enseignement supérieur, remplacera Baroin au budget, mais son fauteuil vide est sitôt accroché par Laurent Wauquiez, qui était aux affaires européennes, qui seront donc reprises par Jean Leonetti, resté fidèle à l'UMP et bien récompensé. Roselyne Bachelot demeure scotchée à son ministère, n'importe lequel du moment qu'elle en ait un. François Sauvadet remplace de son pied d'estal Georges Tronc, qui a eu une légère crampe aux échauffements, et un vieux copain de poids, David Douillet, refait son apparition pour s'occuper des Français de l'étranger, dont il ne connaît bien sûr rien. Ah, quel intense moment ces remaniements, et qu'il est bon de se rendre compte de toutes ces compétences multiples de nos chers, très chers ministres. C'était un message de Pascal, de Lyon.
Bonjour, chers auditeurs modestes et géniaux. Je vais vous tenir au courant minute par minute d'une journée exceptionnelle. Ce matin, j'ai pu passer une heure avec mes proches. Depuis plusieurs années, je survis. De la viande un jour sur deux, pas de repos, oubli de la société et des médias. Je suis otage depuis 4 ans d'une société qui m'enterre, m'oublie, me casse. Les dangereux malfrats qui me retiennent ont un chef qui a pour nom Sarkozy. Je suis écœurée du battage médiatique qui est fait autour de la libération des deux journalistes. Ils sont deux. Nous sommes des millions.
AMG, AMG. Amis merveilleux grabataires, allocataires misérablement gentils, abusés, maquillés, ghettoisés, anonymes, malhonnêtes, gratuitement, AMG. Altruistes, magnanimes, généreux, anarchistes, maoïstes, guévariens, abrutis, misérablement gauchistes, alcooliques, malades, gâteux, AMG. Artistes, maudits, géniaux, anti-mermés, grognons, Apache méchamment galmé, apathie mondialisée gavé, AMG. Anciens mineurs grévistes, athées musulmans guidés, actifs manifestants grecs, AMG. Autistes milliardaires gerbants, allumés mystiques gonflants, auditeurs modestes géniaux. Auditeurs modestes géniaux. Merci à celles et ceux qui ont parlé. Merci Daniel et à bientôt pour la rentrée.
Stéphane et Hervé sont libres. Quelle bonne nouvelle. En tout cas, j'avais aussi envie de dire à Monsieur Fillon, notre Premier ministre bien détesté, que c'est un bon menteur hypocrite, parce qu'après avoir incriminé Hervé et Stéphane, et bien après avoir dit que c'était évidemment de leur faute ce qui leur était arrivé, qu'ils n'avaient qu'à pas y aller, aujourd'hui il exprime sa gratitude et il souligne la souffrance et l'épreuve qui ont été la leur. Enfin bon, peu importe. quelle hypocrisie et quelle espèce de menteur que ce type que François Fillon. Voilà. Et si c'est pour ça que vous diffusez pas mon message, je comprends. Mais monsieur le Premier ministre, vous êtes un véritable menteur. Voilà. Menteur.
Voilà. Mais nous, d'après nos informations, cher AMG, on voit pas de François Fillon. Par contre, il est vrai que dans les premières semaines qui avaient suivi l'enlèvement des deux journalistes, une polémique avait éclaté, suscitée par les critiques d'un certain Nicolas Sarkozy et de son entourage sur, je cite, « l'imprudence coupable d'Hervé et de Stéphane ». Et puis à l'époque, le secrétaire général de l'Élysée était Claude Guéant et qui leur avait reproché de faire, je cite, « courir des risques », fin de citation, à se charger de les ramener. Et le chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Gergolin, avait provoqué un tollé en affirmant en février 2010 avoir déjà dépensé, je cite, « plus de 10 millions d'euros pour cette affaire ». Voilà ce que nous avons trouvé, nous autres, dans les dépêches, mais on n'a pas trouvé de Fillon dans tout ça. À part ça, une autre bonne nouvelle qui nous vient du Japon, de notre ami Miguel Quintana. Une excellente nouvelle, vous vous souvenez peut-être de notre reportage avec le camarade Guy Van Uctil à Kaminoseki. Kaminoseki, une toute petite île japonaise où depuis 30 ans, les habitants chaque jour se battent contre la construction d'une centrale nucléaire. 30 ans. Oui, je dis bien 30 ans. Toute petite île. Eh bien, le gouverneur de la préfecture de Yamaguchi vient d'annoncer son opposition au prolongement du permis de construire de la centrale. C'est quand même pas une trop mauvaise nouvelle et je suppose que nos amis éprouvent un certain bonheur dans cette longue, longue lutte, même si bien sûr tout n'est pas entièrement gagné. Tout au cours de cette année, enfin surtout ce premier semestre dans la basse judiciaire, on a beaucoup parlé de nucléaire, on est allé au Japon, on s'est inquiété sur les doutes qui envahissaient la société japonaise et le possible retournement du Japon en matière de nucléaire. Grande et vaste question. Et maintenant, je vous lis ceci. Contamination radioactive à Saint-Maur-des-Fossés. La ville de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, Île-de-France, est contaminée par des déchets nucléaires issus de la fabrication de bombes atomiques. Vous vous dites, ok, c'est une fiction, c'est une bande dessinée, on va rigoler ou bien on va nous faire peur. Et c'est vrai que oui, un jour, s'il pourrait nous tomber dessus tout près comme ça, ce serait pas au Japon, ce serait pas à Tchernobyl, ce sera à Saint-Maur-des-Fossés. Oh là là, là-bas, si j'y suis, va nous donner une bonne leçon et on va réfléchir. Écoutez, là-bas, si j'y suis, les enfants. Oui, sauf que c'est vrai, ce que je viens de vous dire là, c'est vrai, ça s'est passé en novembre 2010, à Saint-Maur-des-Fossés, ville de Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne, Île-de-France. Costaud, non? Vous vous souvenez de cette histoire? Pas trop, hein. C'était passé comme ça, entre le retour des deux otages et l'élection d'une Française ou d'un Français au FMI. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur cette histoire avec Inès Léraud et c'est notre sujet jusqu'à 16h dans la basse. J'y suis auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je me pose une question un peu philosophico-historique. Si Christine Lagarde avait vécu donc en 1780, aurait-elle vu la fin de l'année 1789? Voilà, merci, ciao.
Allô, c'est le repère du Pas-de-Calais, et on est tous très contents que la basse je suis continue, et on n'en doutait pas. Et c'est pour dire que ben, nous aussi on continue, parce que on a donc notre repère le jeudi 7 juillet, toujours à Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie. Et puis après, le prochain, ce sera le jeudi 1er septembre. On souhaite de bonnes vacances à tout le monde, et puis toujours, bien sûr, dans la lutte.
Bonjour à tous. C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. L'école de Doisieux dans la Loire a gagné avec ses 50 enfants et ses 20 familles mobilisées On a réussi à faire plier l'inspection académique. On garde notre troisième classe pour l'année prochaine. Il aura fallu 2 mois et demi d'occupation, des barrages filtrants, des pétitions, une invasion de l'académie. Mais on y est arrivé. Alors ce petit message pour redonner du courage à tous ceux qui sont engagés dans des luttes locales, que rien n'est jamais perdu. Voilà, c'était Martin à Doisieux. Salut.
Un soir, coup de téléphone, bonjour, je suis dans le bureau du préfet, il y a un très gros problème. C'est comme ça que ça a commencé en fait. On nous a annoncé qu'il y avait eu un problème radioactif à Saint-Maur. Qu'on était dans la zone dangereuse. Et qu'il fallait qu'on se voie.
Personne n'avait jugé bon de prévenir le maire. Ça jette une lumière crue sur l'opacité de la filière nucléaire. Parce que le seul fait qu'au début de la crise, le commissariat à l'énergie atomique ait cru que ça allait pouvoir se régler en silence, est très choquant.
Non, pour moi, c'est vraiment pas une chose... Non, alors là, vraiment, je ne confirmerai absolument pas une chose pareille. Je n'ai pas souvenance que qui que ce soit au CEA cherchait à cacher quoi que ce soit. Ça, non. Non, je ne cache pas. Non.
Donc pour lui, le risque faible, c'était équivalent à un risque nul.
Nous, on n'était pas d'accord.
Voilà, et si nos enfants avaient développé pas plus tard un cancer, ce serait plus lié au stress que nous, parents, leur aurions causé autour de cette histoire du tritium que à cause du tritium lui-même.
Donc ça n'a pas plu beaucoup. C'est-à-dire qu'on a quand même trouvé du tritium dans vos urines.
Bien sûr.
Et dans celles des employés.
Ah bien sûr, tous les salariés.
Même s'il y a un becquerel, le becquerel c'est une unité de radioactivité minuscule, mais s'il y a un becquerel qui est rejeté au-delà de la clôture, on considère que là ça c'est pas acceptable.
Mais alors le directeur du CEA ment quand il dit qu'il ne rejette pas un becquerel de tritium en dehors des clôtures du CEA de Valduc.
ça c'est vraiment extraordinaire. Il a rejeté par exemple en 2010 le site de Valduc 350 terabecquerel de tritium, c'est-à-dire 350 000 milliards de becquerels.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Inès Leroux, nucléaire français. Soyez sans inquiétude. Flight number 2, arriving from...
Mercredi après-midi, on arrive dans un quartier de Saint-Maur, un charmant quartier pavillonnaire. On marche dans une allée qui est bordée par des arbustes de part et d'autre. On passe devant une maison, voilà, qui est sous surveillance, 24 heures sur 24, télésurveillance et vidéosurveillance. Grâce à une boîte qui protège les personnes et les biens. Il y a des maisons assez impressionnantes, à 3-4 étages. Des grosses voitures qui sont garées devant les parkings. Un petit bar-brasserie. Il y a 2 petits ados perchés sur un grand mur en métal. On va aller les voir. Excusez-moi! Vous savez comment il s'appelle ce quartier de Saint-Maur-des-Fossés?
Ce quartier, vers là-bas c'est la Varenne et ici c'est Champignol.
Champignol.
Vous êtes de la télé?
De la radio.
Ah cool! Vous pouvez être interviewé?
Bah en fait je fais une émission sur la pollution qu'il y a eu, la pollution nucléaire.
Ah oui, effectivement il y a une pollution nucléaire. Et...
Ah oui. Vous êtes au courant de ça?
Oui, on est au courant parce que...
Un tout petit peu.
En fait, je sais pas, c'est dans une rue qui s'appelle la rue Parmentier, pas loin. Il y a eu un espèce de déchet. Je ne pouvais pas arriver. En fait, c'est arrivé dans une caisse. Et en fait, bah, ça a fait que ça a coulé. Il y a eu une pollution sur 200 mètres autour. Et en fait, ça a fait des radiations sur 200 mètres autour de l'endroit.
D'accord. Et c'était des radiations nucléaires.
Nucléaires, oui.
Et vos parents, ils se sont inquiétés
à ce propos? Il y a eu une réunion à ce sujet. Et parce que moi, j'étais concernée. J'étais dans le cercle, dans le quartier où ça avait été pollué. Et à ce qui paraît, en fait, c'est... Il y a peu de risques que ça irradie la personne, mais c'est possible.
Tes parents, toi, ils se sont pas inquiétés?
Ben non, moi j'habite derrière le pont de Champigny.
Ah, c'était trop loin pour ça.
Ouais, c'est à 200 mètres, donc c'était trop loin.
Et le collège Camille Pissarro,
il
a été contaminé lui aussi?
Oui, ouais, il était dans la zone de contamination, oui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oh, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a rigoureusement aucun risque. Il n'y a rigoureusement aucun risque. Rigoureusement aucun. C'est l'anxiété qui crée l'impact sanitaire. C'est l'anxiété qui crée l'impact sanitaire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
Petite bombe nucléaire, quand tu descendras du ciel avec ta radioactivité, n'oublie pas mon voisin de palier. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté le beau champignon que je vois en rêve et qui nous pend tous au bout du nez.
Bon, on se dirige vers le collège Camille Pissarro, où on a rendez-vous là-bas avec deux mères d'élèves qui s'inquiètent beaucoup parce qu'en fait, dans ce quartier de Saint-Maur-des-Fossés, il y a un déchet nucléaire qui a atterri. En fait, l'histoire commence en septembre 2009 au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, là où on fabrique les bombes atomiques. Ils utilisent des sortes de gros filtres qui s'appellent des tamis moléculaires. Ils pensaient qu'un de ces filtres était neuf et ils l'ont confié à une de leurs entreprises sous-traitantes qui s'appelle 2M Process et qui est implantée au cœur de ce quartier pavillonnaire de Saint-Maur. Et c'est un an après quand un employé de 2M Process s'est rendu par hasard au centre à l'énergie atomique à Val-Duc qu'une analyse de routine a permis de montrer qu'il était fortement contaminé par du tritium, un élément radioactif. Donc une enquête a été menée et on s'est aperçu que le tamis moléculaire qui avait été confié à l'entreprise 2M Process n'était pas neuf et le tritium qu'il contenait avait pollué tout un quartier de Saint-Maur-des-Fossés. On a même retrouvé du tritium dans la petite mare qui est dans la cour du collège Camille Pissarro. Donc c'est pour ça qu'on va rencontrer ces deux mères d'élèves, Anne Tardif et Nathalie Smadja qui est médecin. Bonjour.
Bonjour,
vous avez toutes les deux apporté vos dossiers.
Ouais. D'abord, on est devenus des pros du tritium malgré tout.
Bonjour.
Bonjour. Donc ça, c'est la fameuse avenue Parmentier. Et donc c'est là que se trouve 2M Process. Okay. C'est à 200 mètres, le collège est à 200 mètres.
C'est-à-dire que nous, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, notre première colère, c'est de s'apercevoir qu'on n'avait pas du tout été mis au courant pratiquement 15 jours après que les faits aient été avérés. Et en fait, la mairie a plus ou moins distribué des papiers dans les boîtes aux lettres des riverains directs, aux alentours de 50 mètres autour du problème. Et par contre, ils avaient complètement oublié qu'il y avait un collège de 700 élèves, quand même très proche. Et donc on a su tout ça tout à fait par hasard à la suite d'un reportage qui est paru un matin très tôt sur Europe 1, je crois, de mon confrère. Sauf que bon, c'était trop tard parce que tout s'était passé plusieurs semaines avant, en fait.
Vous avez entendu quoi aux infos?
Bah, qu'il y avait une contamination radioactive sur Saint-Maur, à 200 mètres du collège Pissarro où se trouvait ma fille. Donc, ça évidemment, ça crée de l'angoisse.
C'est le lendemain qu'on a obtenu en fait la réunion en urgence au collège. Donc, il y a eu une première réunion à ce moment-là avec l'IRSN.
L'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'était donc juste avant Fukushima. Ça vous est arrivé
en novembre.
Donc, cette première réunion, on vous a dit quoi?
Ce sont des doses très, 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 très faibles. Donc, il n'y a pas de danger. Donc, en fait, ils ont admis un petit risque, mais vraiment très, très petit pour les gens qui étaient, bon, les travailleurs de la société Deuxième Process, mais c'est tout juste, hein. C'est-à-dire qu'après, tout le reste, c'était vraiment un risque tellement minime qu'il n'existe pas.
Alors cet incident a été découvert tout à fait par hasard dans une entreprise de Saint-Maur-des-Fossés, c'est dans le Val-de-Marne.
Europe 1, 24 novembre 2010.
Un incident classé niveau 2 sur une échelle qui va jusqu'à 7. Plusieurs personnes sont contaminées, des salariés mais aussi des riverains. Brigitte Béjean, bonjour.
Bonjour à tous. Oui, d'ailleurs la décontamination se poursuit cette semaine parce que ça dure quand même depuis plusieurs mois et l'alerte a été donnée le 3 novembre lors d'un contrôle de routine qui a été fait sur un salarié de l'entreprise Deuxième Process. Une entreprise qui est installée donc à Saint-Maur-des-Fossés. Cet homme, on le constate ce jour-là, est contaminé au tritium. Et on se rend compte rapidement qu'il a été contaminé à Saint-Maur par un équipement expérimental qui se trouve dans les locaux de son entreprise depuis le mois d'avril, donc depuis 9 mois.
Ouais.
Et ben donc voilà, le mal était déjà fait. Tous les locaux de Deuxième Process sont contaminés, ainsi que 6 salariés, mais aussi effectivement 5 riverains, alors eux, heureusement, plus faiblement exposés. Les riverains ont tout simplement respiré l'air ambiant parce que le tritium n'est pas très toxique, mais il est très volatile. Il se fixe dans l'eau et du coup, il est absorbé par tous les êtres vivants et les plantes aussi autour de l'entreprise sont contaminées, on l'a constaté. Normalement, le tritium s'élimine rapidement, au maximum en 60 jours, mais il pourrait se fixer dans l'ADN et là, ce serait quand même une autre histoire.
On sort à la station de RER Saint-Maur et dans l'axe de la sortie, on voit la grande mairie de Saint-Maur avec le drapeau français. On va y aller pour rencontrer le maire UMP, monsieur Henri Plagnol.
Alors, pour le maire que je suis, le début a été une grosse colère contre l'opacité dans le démarrage de cette affaire, évidemment totalement inattendue dans une ville comme Saint-Maur et dans un quartier pavillonnaire tranquille. J'ai appris bien après le déclenchement, qu'un processus de décontamination était commencé par le commissariat à l'énergie atomique à la suite d'une grosse erreur de procédure qui avait consisté à confier à un sous-traitant qui se trouve être dans un quartier de Saint-Maur un tamis moléculaire qui contenait encore, par erreur, du tritium.
Donc un tamis, c'est pour séparer les gaz, hein.
Oui. Ce qui m'avait scandalisé, c'est que personne n'avait jugé bon de prévenir le maire. Et que, au début, ça s'est fait en catimini, sans se soucier non plus d'informer la population. Ça jette une lumière crue sur l'opacité de la filière nucléaire. Parce que le seul fait que, au début de la crise, le commissariat à l'énergie atomique, et je leur ai dit, bien entendu, et cru que ça allait pouvoir se régler en silence, est très choquant. Et il y a quand même au départ une vraie faute de procédure, que le CEA d'ailleurs a admis, hein, puisque c'était un matériel qui était sur le site militaire de Valduc, et qui, à la suite d'une erreur de déclassification, ce qui est quand même énorme pour quelque chose d'aussi sensible et d'aussi stratégique, a été donné à un sous-traitant, qui n'est évidemment pas une installation classée ni soumise à aucune surveillance, un petit sous-traitant, qui est d'ailleurs en l'espèce payé un lourd tribut, avec 5 ou 6 salariés, qui ignorait complètement les malheureux que le matériel qu'ils avaient reçu contenait du tritium. Ça, c'est scandaleux, et ça doit être d'ailleurs un des débats des échéances nationales qui viennent. Moi, personnellement, je crois que la filière nucléaire restera encore très longtemps nécessaire à l'équilibre énergétique de la France, mais on doit faire d'énormes progrès en matière de transparence,
de rigueur dans la gestion, d'information du public. Tout doit être un livre ouvert. C'est le premier impératif pour la sécurité.
Alors vous l'avez appris par qui, au bout de quelques jours ?
Par des habitants.
Vous avez appris par des habitants ?
Oui, bien sûr. Qui tout simplement se sont aperçus qu'il y avait en cours la mise sous cloche d'un local à deux pas de chez eux.
Toujours à Saint-Maur-des-Fossés, dans une ruelle qui longe les rails de chemin de fer, on va chez l'imprimeur. Bonjour.
Jérôme, la demoiselle, c'est pour toi.
Et vous appelez comment ?
Jérôme.
Vous faites quoi dans l'entreprise ?
Directeur commercial. Ah, c'est là. C'est le mur commun avec deuxième process.
Là, on est dans la grande salle principale de l'entreprise et on est devant le mur qui est commun avec l'entreprise contaminée au tritium.
Voilà, c'est ça.
Et c'est toute la surface du mur qui est commune,
c'est toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Ça doit faire plusieurs mètres, on doit avoir plusieurs mètres en commun.
Et c'est par là que votre entreprise elle a été contaminée ?
Oui, c'est ce que le CEA nous a annoncé en tout cas. C'est ce qui paraît effectivement raisonnable.
Et vous, comment vous avez appris alors que votre entreprise, elle faisait partie de la zone contaminée à Saint-Maur ?
Par un coup de téléphone un soir.
De la part de qui ?
Ça doit être l'IRSN.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Ouais. Un soir, coup de téléphone, bonjour, je suis dans le bureau du préfet, il y a un très gros problème. C'est comme ça que ça a commencé en fait. On nous a annoncé qu'il y avait eu un problème radioactif à Saint-Maur. On était dans la zone dangereuse. Et qu'il fallait qu'on se voit. Le problème, c'est que quand on parle de tritium, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Hein. Voilà, déjà que le monde nucléaire, c'est un monde un peu compliqué, mais alors le tritium, c'est la première fois de notre vie qu'on entendait parler de ce problème-là. Quoi. Et puis après, on essaye d'avoir des réponses. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est dangereux? Et c'est là que ça devient de plus en plus compliqué d'essayer d'obtenir une réponse. Quoi.
Et alors, ils sont venus faire des mesures chez vous, dans votre usine ?
Bien sûr.
Sur vous aussi, pour voir si vous étiez contaminé ?
Oui, tous les salariés, tous d'urine. Chaque salarié a des résultats complètement différents.
C'est-à-dire qu'on a quand même trouvé du tritium dans vos urines ?
Bien sûr.
Et dans celles des employés ?
Ah, bien sûr. Tous les salariés.
Et depuis, vous avez un suivi médical ?
On s'est battu pour avoir ça.
Vous avez dû vous battre pour avoir un suivi médical ?
Ah oui, ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
Et qu'est-ce que ça donne ?
Ça baisse. Mais il y en a toujours.
Au bout de combien de mois ?
Bah quasiment au bout d'un an.
Quasiment un an, ça, il y en a encore ?
Bien sûr.
Et dans l'air ?
Dans l'air, ouais. Dans l'air, partout, là. En permanence.
Vous voulez montrer les résultats ?
Bah, si vous voulez.
Voilà. On n'est pas à Fukushima, on n'est pas à Tchernobyl. C'est rien de comparable. Rien de comparable, véritablement, lorsqu'on voit que le maire de Saint-Maur, Henri Plagnol, un maire UMP, un monsieur pondéré, du côté de la majorité qui est favorable, vous l'avez entendu, de la bouche même du président de la République à poursuivre et développer le nucléaire français, qui trouve malgré tout qu'au moins en matière de sécurité nucléaire, il y aurait comme une sorte de manque de transparence. Mais encore une fois, n'ayez pas peur.
J'ai pas les chiffres d'urine, mais j'ai les chiffres résultats d'analyse de l'air ambiant. Voilà, donc ils ont analysé 6 sociétés. Donc il y en a une qui est la première qui est à 10, 10 becquerels par mètre cube, la deuxième est à 2, 3, après 4, et nous on a 497.
497 becquerels par mètre cube, et qu'est-ce qu'ils ont conclu eux ?
Que c'était pas dangereux. Et quand vous recevez un courrier comme ça, vous avez peur quand même. Quand vous recevez un document où on vous dit vous avez 250 fois plus de contamination que chez votre voisin, ouais ça fait un peu peur quand même.
Et vous avez combien d'employés dans votre entreprise ?
20
employés. Et comment réagissent vos salariés ?
Bah, ils sont inquiets.
Ils viennent travailler quand même ?
Bien sûr.
Ah bah oui, parce qu'on les force. Hein.
Mais non, mais c'est, en même temps, c'est leur salaire.
Il faut qu'ils vivent.
Donc là, tout le monde vit un peu sous cette menace.
Tout le monde le sait.
Tout le monde le sait, mais...
On ne sait pas si dans 20 ans, on aura un cancer ou pas.
Et on continue à venir travailler.
Jérôme, là on va où ?
On va aller voir deuxième process.
C'est la société qui a reçu le déchet nucléaire.
Ouais.
Ah bah c'est vraiment dans une petite rue résidentielle. Il y a un portail en fer forgé. Donc là on entre dans la cour de la société deuxième process qui a été contaminée par un déchet nucléaire qui venait du commissariat à l'énergie atomique, là où on fabrique les bombes atomiques. C'est une cour résidentielle, en fait. Et il y a une voiture rouge au fond de la cour. Et il y a un monsieur qui en sort. Bonjour. On cherche la société Deuxième Process.
Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus ?
Non. C'est fermé.
C'était ce bâtiment-là ?
Par contre, je vais vous demander de sortir. Parce que c'est privé.
Mais on peut rentrer pour aller dans les habitations et tout ça, quand même.
Vous pouvez aller voir la dame qui est là, si vous voulez, mais ici, c'est privé. Donc je vais vous demander de quitter les lieux.
Ah, vous êtes le gardien.
Peu importe. Je suis là et vous sortez, c'est tout. On est bien d'accord.
Au revoir.
C'est vraiment étrange comme réaction, non ?
Non, c'est juste voir.
Il n'y a aucune pancarte, il n'y a rien pour dire « n'entrez pas »,« zone contaminée ». Il y a juste un monsieur qui envoie chez les gens. Mmh. Ce qui est étrange, c'est que si la contamination elle n'est pas si grave, pourquoi...
C'est là. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire de fait.
François Bugeaud, directeur du CEA Val-Duc, vient de refaire l'entrée du bâtiment qui était d'époque, parce que le centre a 50 ans. Je vous laisse mettre votre ceinture tranquillement.
Oui.
Dès qu'on a une alarme quelque part, quelle que soit la nature, hein, les gardes interviennent immédiatement. C'est ça que vous avez entendu, le ping-pong que vous avez entendu tout de suite.
D'accord.
Oh, on n'est pas loin de Dijon, là. Dijon. Oh, il y a la moutarde, mais alors cette région autour de Dijon, la gastronomie, les vins de Bourgogne, enfin vraiment, les armes nucléaires. Oh,
Ben oui, aussi, on fait des armes nucléaires ici. Voilà, vous êtes dans un endroit. C'est le centre de l'énergie atomique de Valduc où nous sommes avec François Bugeaud qui nous reçoit. Et ici, dans ce charmant site, eh bien, on fabrique des armes nucléaires. Tout simplement. Oui, c'est là que ça se fabrique. C'est là que se trouve Inès Lérault. Et l'opération à laquelle vous allez assister, c'est nous rassurer.
C'est un centre où on réalise, on fabrique les armes nucléaires.
D'accord, on fabrique les armes nucléaires.
On fabrique les armes nucléaires de la dissuasion. Voilà. Alors, en fait, ça fonctionne de la façon suivante. Il y a une composante océanique et une composante aéroportée. La composante océanique, elle est emportée par 4 sous-marins. Donc, dit SNLE, hein, c'est le jargon sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et qui ont des missiles, et chaque missile a plusieurs têtes. Et puis il y a une composante aéroportée qui est portée par les avions.
Et j'ai vu que pour la composante sous-marin, chaque tête avait la puissance de 6 ou 7 fois la bombe d'Hiroshima.
La puissance, vous vous doutez qu'on ne va pas vous la donner précisément, mais ce sont des puissances supérieures à effectivement Hiroshima, aux puissances historiques, je dirais. Hein. Bon, le centre est très grand, hein. 800 hectares. Donc on est au milieu d'un désert vert, hein, comme on dit. Vous voyez des installations qui sont un petit peu dispersées partout. Typiquement, une installation nucléaire, on la reconnaît à deux choses. Elle est complètement fermée, vous voyez, c'est un bloc, on ne voit rien. Et puis, elle a une cheminée.
Et ça, c'est des installations où on fabrique des bombes nucléaires ?
Le CEVA fabrique la partie tête nucléaire qu'on livre aux armées. Et la tête nucléaire est fabriquée ici à Valduc.
Donc dans les différents blocs qu'on voit là dans la forêt.
Voilà, tout à fait, un petit peu partout sur le centre. Alors ici, ce qu'on manipule sur le centre de Valduc, c'est trois choses. C'est du plutonium sous forme de métal, de l'uranium sous forme de métal et du tritium, et là c'est un gaz. Et on contrôle l'air pour vérifier qu'il n'y a pas de rejet ou des rejets extrêmement faibles à l'extérieur de l'installation et en aucun cas à l'extérieur de la clôture, dans les bois aux alentours, c'est le premier requis. Donc ça c'est une chose extrêmement importante, même s'il y a un becquerel, le becquerel c'est une unité de radioactivité minuscule, mais s'il y a un becquerel qui est rejeté au-delà de la clôture, on considère que là ça c'est pas acceptable.
Tiens, c'est étonnant qu'il dit ça. J'avais entendu dire que Valduc, c'était un des sites les plus polluants en tritium. Alors là, on entre dans un bâtiment.
On entre de côté, c'est un bâtiment nucléaire. Évidemment, l'entrée est tout à fait ordinaire. Christine Descuiper.
Bonjour.
Qui est la spécialiste de l'état dont on va parler. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer donc en zone qu'on appelle zone contaminante. C'est-à-dire, c'est la zone dans laquelle on manipule de la matière nucléaire, donc dans laquelle, potentiellement, on pourrait être en contact. Alors même s'il y a zéro contamination dans l'air, la règle impose, je vous en prie. Donc alors il faut se déguiser simplement. Vous allez mettre deux surbottes. Et après on va mettre une blouse. Alors on te suit, Christine. Donc ce qu'on va aller voir, c'est l'endroit où on utilise le matériel qui avait donné lieu à l'incident de l'automne, de Saint-Maur-des-Fossés. Hein. Donc, on va voir ce que c'est, que vous puissiez matérialiser. Alors, l'appareil sur lequel on a eu une difficulté à l'automne, c'est cet appareil-là. Ça s'appelle un tamis moléculaire. Un tamis moléculaire, c'est une boîte en inox. Alors, quand on est dans des atmosphères où on craint qu'il puisse y avoir un petit peu de tritium, on ne va pas rejeter cette atmosphère à l'extérieur. Donc on va la passer à l'intérieur de ce filtre et après on peut rejeter l'air. Donc l'incident qui s'est produit à l'automne, c'est qu'un tamis moléculaire, c'est-à-dire cet objet-là, combien ça pèse ? 150 kilos, je dirais.
Ah oui, oui.
Voilà, hein. On en avait un qui était réputé neuf. Il est malencontreusement sorti du centre chez un sous-traitant qui faisait des petites études de chimie de base. Et en fait, il est apparu en novembre qu'il avait été utilisé à Valduc, qu'il n'était pas neuf et qu'il avait encore un petit peu de tritium à l'intérieur. C'est ça l'incident qui s'est produit au mois de novembre. Voilà. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, on va ressortir.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave dans cette histoire ?
Réglementairement, pour nous, dans le monde nucléaire, pour nous, nous considérons que c'est quelque chose de très important de notre côté. Pour le public, c'est insignifiant. Il y a un impact sanitaire de cette affaire absolument nul.
ça qui est-ce qui le dit
là-dessus. Ça, c'est l'IRSN et l'autorité de sûreté. Hein. Donc ça, si vous voulez, de ce côté-là, Dieu merci, on n'a pas de doute là-dessus. Hein.
Alors, je m'appelle Alain Ranou, conseiller scientifique pour la radioprotection.
À l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et vous avez mené ensemble, avec le professeur Gourmelon, les investigations sur la contamination d'un quartier de Saint-Maur-des-Fossés par du tritium.
Le tritium n'est pas l'élément le plus radiotoxique et même parmi les éléments les plus faiblement radiotoxiques aujourd'hui. Il peut y avoir peut-être certaines incertitudes sur certaines formes organiques où le tritium est lié donc à la matière organique. Pour autant, ça n'est pas de nature à, disons, conduire à des inquiétudes au niveau des expositions dont on parle.
Et ça, comment on sait qu'il n'y a pas de problème sanitaire? Parce que, non, mais parce que j'ai trouvé d'autres documents dans lesquels vous avez écrit avec Monsieur Gourmelon, où chaque phrase, presque, on dit, il n'y a pas assez d'études, on n'a jamais assez étudié le tritium, on ne sait pas ce qu'il devient à l'état organique, on ne connaît pas bien comment il réagit dans les faibles doses.
Non, je crois qu'il faut quand même mettre un peu de rationnel derrière cela. Bon, c'est probablement l'un des éléments radioactifs qui a été le plus étudié par les spécialistes, par les chercheurs.
Quand même, là, c'est avec Monsieur Gourmelon. Mmh. Le présent rapport analyse la problématique sanitaire posée par le tritium, mettant en lumière les déficits de connaissances scientifiques sur ses effets biologiques.
Oui, mais madame, il faut lire tout l'article. Là, vous lisez l'introduction.
Mais j'ai tout lu.
Mais c'est pareil, mais toujours en science, vous ne savez pas toujours tout en science. Pour autant, pour prendre d'autres exemples, est-ce qu'on sait tous comment fonctionne notre voiture pour prendre notre voiture? Non, bon, là c'est pareil.
Je trouve ça quand même étrange que vous disiez que ce soit un matériau très étudié, peut-être le plus étudié, parce que si on lit les synthèses de chaque paragraphe,
oui, mais
on rappelle le manque de connaissances. Et la deuxième chose qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il n'y a pas besoin de comprendre comment marche le moteur d'une voiture pour la conduire. Mais quand on agit sur quelque chose, on sait qu'on va avoir une conséquence directe. Mmh. Quand on est exposé à des faibles doses de tritium ou à des faibles doses de radioactivité, on aura des conséquences dans 30 ans. Comment peut-on dire, même si je ne comprends pas le processus, je sais que ça n'aura pas lieu?
Je crois qu'il faut, effectivement rappeler qu'il y a aujourd'hui des incertitudes sur les effets des rayonnements ionisants à faible et très faible dose. Nous sommes là aujourd'hui en train de parler de Saint-Maur dans un domaine de très faible dose. Je crois qu'il faut, quand même avoir un peu l'esprit de responsable. Le fait de laisser penser à des personnes qu'elles sont exposées à un risque, ça peut avoir des conséquences autrement plus importantes que le risque réel, si vous voyez ce que je veux dire.
C'est-à-dire que le stress...
Exactement.
Le stress...
Exactement. Le stress peut être un facteur de risque. Donc je crois qu'il faut quand même être raisonnable, et à partir du moment où le risque est faible, je pense qu'il faut essayer de rester raisonnable.
C'est ça en fait, la science ne préfère pas faire part de son incertitude face au public de peur de le stresser.
Je répondrai pas.
Voilà, je suis désolé de vous dire que vous avez une vision qui est pas...
C'est pas bonne.
Non, mais j'ai l'impression de ne pas vous convaincre.
Vous ne me convainquez pas, c'est que l'IRSN, ayant été autrefois attaché au CEA, les gens qui font partie de l'IRSN, comme vous aujourd'hui, vous êtes entré au CEA en 1983, vous avez travaillé 20 ans pour le CEA. Est-ce que ça ne vous paraît pas être un conflit d'intérêts que de juger, d'interpréter des résultats qui concernent des dégâts provoqués par le CEA, de les interpréter, vous et vos collègues qui aussi appartenaient au CEA, alors que vous en étiez salarié? Vous ne savez pas?
Moi, écoutez, je ne suis pas venu pour parler de ça. Franchement, je vous le dis, je ne suis pas venu pour parler de ça.
Oui.
Vous coupez, s'il vous plaît, qu'on se mette d'accord. Hein, vous coupez votre appareil, s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce que c'est que ces journalistes qui lisent les dossiers, font en comble maintenant Alain Ranou, expert en radioprotection à l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à Fontenay-aux-Roses, a passé une mauvaise soirée.
Et vous, vous avez qui de scolarisé au collège Camille Pissarro ?
Moi, j'ai deux enfants, mes deux derniers.
Et moi, une fille qui est en troisième.
Et du coup, ils ont réagi comment ?
Eh ben, ils étaient angoissés.
On a eu l'impression que comme c'était pas très grave, ben, il valait mieux ne pas en parler. Et alors, surtout pour des ados, ça, c'est le genre d'explication qui est pas très recevable. Donc, autant informer les gens de manière transparente. Surtout, nous, ce qui nous a un peu agacé, c'est l'assurance des gens de l'IRSN. C'est-à-dire, quand on est à la première réunion, on savait rien, donc on n'a pas posé beaucoup de questions, évidemment. Et la deuxième réunion, on avait quand même potassé un peu les choses. Donc, ils se sont trouvés face à un auditoire qui posait des questions, qui, en plus, avait un droit de suite sur les réponses. C'est-à-dire, chaque fois, on reposait la question, etc. Et à un moment donné, il y a un des pontes de l'IRSN qui s'est fâché en disant, bon, écoutez, c'est pas possible. Moi, je peux pas être dans une réunion comme ça. Si je parle pas à un auditoire acquis à ma cause, c'est pas possible. Et il a commencé à partir. Donc là, le maire est resté un peu pantois quand même. Et il lui a dit, attendez monsieur, les parents sont venus exprès pour avoir des... C'est normal qu'ils posent des questions. Enfin bon, il s'est un peu calmé, il est revenu. Mais là, c'était tendu quand même. Hein. Il fallait pas lui poser des questions qui dérangent. Quoi.
Donc pour lui, le risque faible, c'était équivalent à un risque nul.
Et nous, on n'était pas d'accord.
Voilà, et si nos enfants avaient développé pas plus tard un cancer, ce serait plus lié au stress que nous, parents, leur aurions causé autour de cette histoire du tritium que à cause du tritium lui-même.
Donc ça n'a pas plu beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils ont une telle assurance à ne pas prendre en compte les inquiétudes des gens, à ne pas prendre en compte nos questions.
Par exemple, on s'interrogeait sur, parce que le tritium se fixe sur les végétaux, d'autant plus qu'il y a de l'eau dedans, parce que ça se fixe sur l'eau. Et on a dit, bah, si des personnes voisins de l'usine avaient un potager. Non, il n'y a pas de potager autour de l'usine. Voilà. Donc, c'est des affirmations. Et en fait, après, en fait, il y en a. Il y a des gens qui ont des arbres fruitiers, qui ont mangé leurs fruits tout l'été précédent. Je pense qu'ils sont pas allés voir. Et puis, ils auraient pu dire, oui, effectivement, peut-être qu'il y a des potagers, faut qu'on aille voir, etc. Mais non, il n'y a pas de potager. Donc ça, c'est sur des choses que nous, on peut vérifier. Alors après, les autres affirmations qu'ils font, qui sont plus techniques sur le tritium, nous, on n'est pas capable d'aller vérifier parce que c'est dans un domaine scientifique qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas.
Donc vous vous lancez dans une plainte, dans une procédure juridique ?
Alors au départ notre volonté c'était effectivement de prendre date par rapport à une contamination éventuelle pour que ça reste si jamais dans 20 ou 30 ans nos enfants développaient des choses bizarres qui est au moins une trace de ce qui s'était passé 20 ou 30 ans avant et pour nous le dépôt de plainte c'était un peu une manière de laisser une trace par rapport à ça. Il y avait aussi un autre aspect par rapport au CEA d'essayer de leur mettre un peu la pression et de leur montrer que ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi et que parce que là en fait ce qui s'est passé là pour deuxième process à la limite, ça peut se reproduire à tout instant, puisque c'était une erreur, enfin une suite d'erreurs.
La radioactivité, c'est inodore et incolore. Et c'est vrai qu'on peut passer dans la rue. Là, au départ, c'était un peu effrayant, parce qu'il y avait un gardien, il y avait des gens qui venaient habillés de blanc pour faire des manœuvres, etc. Et donc ça pouvait avoir un petit côté effrayant. Depuis, là maintenant, c'est une rue tranquille, très agréable, et ça se voit pas. Mais ça continue. Voilà, on oublie qu'il y a du tritium dans l'air.
On est en train d'en respirer, là ?
À des très faibles doses, rassurez-vous.
Son effet est magique, elle fait fureur partout, elle vous met sans dessus dessous. C'est la danse atomique, son effet est magique. Quand on l'a bien dansé, on veut la recommencer. Son effet est magique, elle fait fureur partout, elle vous met sans dessus dessous. C'est la danse atomique, son effet est magique, quand on l'a bien dansé, on veut la recommencer.
Elle est bien, hein, la danse atomique. Henri Dekker, la danse atomique, des paroles dont on se souvient aisément. Alors, retour à Valduc. On a compris que ça vous plaisait, ça, Valduc, l'endroit où l'on fabrique des armes nucléaires en France, non loin de Dijon, à 45 kilomètres de Dijon, où Monsieur François Bugeaud, qui est le directeur de ce centre, eh bien, nous a drôlement bien rassurés tout à l'heure. Quant à savoir si les riverains de l'usine de Saint-Maur pourrait porter plainte. Vous avez entendu ces mères de famille. Alors là, Monsieur Bugeaud trouve ça tout à fait fantasque.
Donc, pour vous, à la fois des salariés qui ont été exposés à des normes au-dessus des normes réglementaires et des habitants qui ont été exposés à du tritium alors qu'ils n'auraient pas dû être exposés, vu que vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'impact sanitaire, il n'y a pas d'indemnisation prévue pour tous ces gens-là et pour la pollution qui a été engendrée.
Écoutez, ça, dans un pays comme le nôtre, quand quelqu'un estime avoir reçu un préjudice, eh bien, il porte l'affaire devant un tribunal, mais personne n'a eu une idée aussi fantasque dans ce cas particulier, puisque le préjudice est strictement nul.
Il y a quand même des procès en cours. Il y a des plaintes.
Alors, il y a des plaintes qui ne portent pas tellement... ce ne sont pas les gens qui nous... Enfin, qui...
Il y a des gens du quartier qui sont en train de préparer
alors,
une plainte.
Si, je ne le sais pas.
Ils signent des fantasques, selon
vous. S'ils le souhaitent, ils feront un recours. Oui, bon, c'est parfaitement autorisé. Voilà, c'est comme ça que marche la République. Voilà.
Mais c'est une idée fantasque, selon vous.
Écoutez, moi, je pense que ça ne me paraît vraiment pas justifié dans la mesure où l'impact sanitaire est absolument nul. Mais bon, voilà. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Hein.
Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire, responsable du laboratoire de mesure de radioactivité de la CRIRAD, indépendante de l'État, des industriels, des partis politiques. Alors, considérer que les conséquences sanitaires sont nulles, ça n'a pas de sens. Dans la mesure où toute dose, même très faible, de radiation augmente les risques de cancer à long terme, il n'y a pas de seuil de protection absolu. Dans le cas particulier du tritium, c'est de l'hydrogène radioactif, le corps humain est fait de molécules d'eau et de molécules d'hydrogène, il y en a partout en nous. Ça veut dire qu'à partir du moment où on rejette du tritium dans l'environnement, eh bien, on le retrouvera dans l'humidité de l'air, dans la pluie, dans les végétaux, dans la chaîne alimentaire, et dans le corps humain, et dans l'ADN. Et donc, ces effets radiologiques et physico-chimiques peuvent créer des dommages et augmenter en particulier, entre autres, les risques de cancer à long terme. Donc, par rapport au tritium, il faut quand même rappeler que l'OPRI, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en France, disait il y a quelques années, de mémoire c'est en 96, eh bien on ne sait pas quelles sont les conséquences de cette exposition par le tritium pour les gens qui vivent autour d'un certain nombre d'installations comme Valduc, comme Marcoule, comme La Hague et comme d'ailleurs toutes les centrales nucléaires, puisque les centrales nucléaires sont autorisées à rejeter du tritium. Le CEA de Valduc, ces autorisations de rejet sont très importantes puisque c'est 1850 térabécquerels d'autorisation de rejet de tritium à l'atmosphère, c'est-à-dire 1 850 000 milliards de becquerels par an.
Mais alors le directeur du CEA ment quand il dit qu'il ne rejette pas un becquerel de tritium en dehors des clôtures du CEA de Valduc.
Ça c'est vraiment extraordinaire. Il a rejeté, par exemple, en 2010, le site de Valduc, 350 térabécquerels de tritium, c'est-à-dire 350 000 milliards de becquerels. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une incompréhension sur la question ou sur la réponse. Bon, en plus, c'est un site qui est autorisé à manipuler du plutonium, de l'uranium. Donc, c'est très difficile de savoir exactement les risques qui peuvent être liés à un accident, un incendie ou une mauvaise manipulation sur ce site. La CRIRAD avait demandé en 95 à accéder, à aller faire des prélèvements à l'intérieur du site quand on s'était aperçu de la contamination en tritium à l'extérieur du site, dans les eaux. Et le CEA ne nous a pas autorisé à faire des prélèvements à l'intérieur de son site.
Donc selon vous, ça n'aurait pas non plus pu être plus grave. Un accident plus grave ne pourrait pas arriver à Valduc.
Pour moi, non.
François Bugeaud.
Dans l'histoire de Valduc, un niveau 2, c'est ce qui peut nous arriver de plus important.
Directeur du commissariat à l'énergie atomique de Valduc.
On a tout un ensemble de dispositions, de procédures pour faire en sorte que ces événements n'arrivent pas. Mais s'il en arrive un, comme il est arrivé à l'automne, alors la règle de base, c'est un, transparence immédiate, en particulier vis-à-vis du public, et deuxièmement, on assume immédiatement l'ensemble de nos responsabilités, c'est-à-dire qu'on évacue les matières, transparence immédiate, et on fait tout ce qu'il faut derrière pour décontaminer. Voilà. La règle, c'est la règle. On doit la respecter, et quand par malheur on ne la respecte pas, même si c'est arrivé une fois en 40 ans, eh bien on se fait sévèrement taper sur les pieds. C'était très sévère, mais c'est la vie.
Vous avez quoi comme punition ?
Un quart d'heure. Ah ben alors vous imaginez l'ensemble des procédures qu'il faut reprendre, réexaminer. C'est un travail de titan que l'on fait derrière. Il faut tout réexaminer. Voilà. Mais c'est normal, la vie du nucléaire c'est comme ça.
Donc il n'y a aucun incident plus grave qui pourrait, selon vous, arriver.
Ah ben non, Dieu merci. Non, honnêtement, je ne vois pas.
Dieu merci. Et merci aussi à Inès Léraud. C'était elle qui signe son reportage. Louis Demoulin et son copain, merci. Anne Tardif, Nathalie Smadja, Jérôme, merci. Elodie Janin, Catherine Sceau de la Seva et Bruno Charéron. Merci, vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également, chers AMG, la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincé et David Federman, Coy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Marina Touyez attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euro Million n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 152 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
Euro Million, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, les infos, Angélique Bois. Salut.
Et on commence avec cette information. Le gouvernement grec a obtenu la majorité au Parlement sur le second volet de son plan d'austérité. Un vote qui, vous le savez, ouvre la voie à l'aide financière de l'aide européenne, de l'Union européenne, pardon. 18 mois de captivité dans des conditions très difficiles, mais sans violence. Stéphane Taponnier, Hervé Guéquière, ex-otages en Afghanistan, ont longuement raconté leur calvaire depuis leur arrivée ce matin sur l'aéroport de Villacoublay. Une arrivée loin des caméras, discrétion inédite à la demande des familles et de l'Élysée, semble-t-il. Après trois quarts d'heure en petit comité, les deux journalistes ont répondu aux questions de la presse. « Nous allons bien », ont-ils dit. « Nous n'avons jamais perdu espoir, même si on savait que ce serait long ». Dans la matinée, ils ont subi des examens médicaux, puis se sont rendus au siège de France Télévisions, leur employeur, où ils ont été accueillis par une véritable foule massée dans le grand hall. Les deux hommes ont choisi ce moment pour faire une mise au point sur les conditions de leur enlèvement. Il y avait des polémiques sur les risques qu'ils prenaient en allant tourner seuls dans une région dangereuse. L'armée française ne nous a pas mis en garde. L'on n'a pas pris de risques inconsidérés, comme cela a pu être dit, a déclaré Hervé Guéquière, ajoutant, on a juste fait notre boulot de journaliste. Peu après leur enlèvement, Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Élysée, avait parlé d'une imprudence coupable. Un an de prison ferme pour une directrice de maison de retraite de l'Oise, la maison des Myosotis, qui a été fermée. Marie-Claire Beaujora a été condamnée pour avoir laissé des pensionnaires dans de mauvaises conditions d'hygiène. Dans l'affaire de la fraude au bac, la justice rendra sa décision d'ici demain soir. Le tribunal administratif de Paris a été saisi de deux requêtes de parents d'élèves qui contestent la décision de Luc Châtel de ne pas faire noter l'exercice concerné, des parents qui demandent le retour au barème initial. Il n'y a pas de problème, commentaire laconique de Nicolas Sarkozy après son agression lors d'un bain de foule ce matin à Brax dans le Lot-et-Garonne. Alors qu'il serrait des mains, le chef de l'État a été agrippé très brutalement par un inconnu. Il a été déséquilibré mais immédiatement mis hors de danger par ses gardes du corps qui ont plaqué au sol l'agresseur. Le président aurait esquivé une tentative de coup de poing selon plusieurs témoins. L'homme est en garde à vue à Agen. Un drame la nuit dernière à Méaille, dans les Alpes de Haute-Provence. Deux pompiers qui intervenaient sur un feu ont été tués. Ils sont morts électrocutés lors d'une opération de déblaiement. Un troisième est légèrement blessé. Et puis un mot de tennis pour vous dire que la Tchèque Petra Kvitova est qualifiée pour la finale de Wimbledon. Elle a battu la Bélarusse Victoria Azarenka en 3-7, 6-1, 3-6, 6-2.
Auditeur de France Inter à Saint-Étienne, notre fréquence en FM changera dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet. Vous pourrez désormais nous écouter sur 99.5 MHz. Toutes nos fréquences sur franceinter.com.
Autant pour moi, Harold Manning.
Dimanche à 10h, Autant pour moi revient et invite Jamie Cullum. Entre pop et jazz, ses disques, ses amis, ses influences. Jamie Cullum, dimanche à 10h. Sur France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h03 sur Inter, on poursuit cet après-midi en musique également avec vous, mais Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Oui, ça sent les vacances. Tout le monde bouge. Pas forcément pour se reposer. Il y en a qui partent travailler ailleurs, bien sûr. Mais enfin, bon, il y a du mouvement, ça je peux vous le dire. Et donc, c'est vrai qu'on a envie de voir la mer, on a envie de voir les belles campagnes et puis peut-être écouter un peu de musique aussi. Tu vois, Noirmoutier, si vous connaissez Noirmoutier, il faut faire attention au passage du Gouas qui se recouvre à marée haute. Ça va très très vite quelquefois et on peut hisser sa voiture, voire même, enfin plus maintenant, mais voire même sa vie parce que l'eau va à une vitesse folle. Alors maintenant, évidemment, il y a des espèces de promontoires. On peut grimper sur des miradors pour sauver sa paume. Enfin bon, Noirmoutier, c'est formidable. Il y a des pommes de terre délicieuses. Il y a une pêche à pied tout à fait recommandable. Et puis, évidemment, ce n'est pas mon sujet. C'est de la musique qui nous intéresse. C'est de ça que je vais vous parler. Donc, il y a un festival qui s'appelle Balade Lyrique à Noirmoutier, en Lille. Ça commence le 23 juillet. C'est pas tout de suite, vous voyez. Mais enfin bon, maîtrise régionale des Pays de la Loire. 55 choristes, dont 50 enfants, à la grotte Saint-Philibert, Bois de la Chaise, plein d'autres concerts, voire sur place. Et puis, un pianiste qu'on n'a pas entendu depuis longtemps en France, Pascal Roger, avec Ami Akuno. Ils vont jouer à quatre mains, La Mer. Et puis, bien sûr, de Claude Debussy. Et ce sera le 28 juillet à 22h30 sur la plage des Dames. Il y aura aussi un comédien, un pensionnaire de la Comédie Française, Jean Dalric, qui dira Électre de Giraudoux. Et puis ensuite, L'Apprenti Sorcier de Paul Ducas, musique et texte. La Rhapsodie espagnole. Et puis Vendée avec la Chaboterie, très très beau festival. Alors c'est entre Nantes et La Roche-sur-Yon, 40 kilomètres au sud de Nantes. Et là, un paysage somptueux aussi. Et on pourra entendre le 19 juillet la Symphonie du Marais à l'Historial de la Vendée à 21h. Du Rameau, on a écrit avec un X, Rameau, c'est sans X, mais enfin bon, peu importe, Naïs de Rameau. Je vais pas donner toutes les dates, ça file jusqu'au 10 août. Le deuxième concert, c'est Saltali à la Chaboterie. Donc vendredi 22 juillet 21h, le concerto Kuhn, donc l'ensemble, le concert de Cologne, Handel et l'Italie. Ben voici le concerto Kuhn, tout de suite dans l'Allegro d'une symphonie en si bémol de Georg Friedrich Handel. We'll be right back.